sommes toujours avec Bruno Vessière.
Pour parler des squats.
Pour parler, oui, d'un mode de vie. Vous nous avez beaucoup parlé des milliardaires qui habiteront dans les penthouses, Bruno Vessière, mais je pense qu'il y aura aussi, certainement, tous ces gens-là vont libérer des magnifiques hôtels particuliers qu'on va pouvoir squatter en attendant qu'ils soient... réhabiliter.
Alors voilà, le problème des squatteurs, c'est qu'il y a déjà, il faut qu'il y ait des logements vides. Alors, il y a 30 ans, effectivement, Rousseau, qui s'occupe de la Côte d'Ouate, la coopérative un peu militante, justement, avait, dans un excellent article sur le gros bouquin rouge, payé par les éditions Tronement et Patrice Muni directement par la municipalité sur toutes les cultures alternatives de Genève, discerné trois phases dans l'histoire des squats à Genève. Et il y a 30 ans, c'est évident que c'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Donc, on va pas épiloguer. C'est un peu trop long.
Alors, pour qu'il y ait des squats, il faut d'abord qu'il y ait plus de logements. Il faut qu'il y ait des logements
vides. Voilà, des logements vides. Alors, il y a des époques, il peut y avoir beaucoup de logements vides parce que les propriétaires veulent virer les locataires pour état de raison et c'était faisable. Il y a d'autres époques, ce sont uniquement des promoteurs qui, effectivement, eux-mêmes spéculent en achetant des immeubles entiers vides, mais qui vont revendre uniquement pour faire la culbute en quelques jours ou quelques mois, avec peut-être des risques quand même. Hein. C'est pas évident de sortir 30 ou 50 millions. Mais dans ces cas-là, ils mettent pas de locataires dedans, donc c'est l'immeuble entier qui reste vide. Donc, il y a plusieurs configuration possible. Et aujourd'hui, de toute façon, il n'y en a plus, puisque Genève est complètement asphyxiée. Il est impossible de trouver un logement à Genève si on n'a pas un énorme piston, tant de droite que de gauche.
On parle de 0,15% de logements qui sont
encore
vacants.
Oui, c'est le record du monde. C'est le record du monde de vacances mondiales. Il faut normalement 2 à 4%. Un peu comme le marché du travail, quoi. Il faut un taux de glissement, de 2 à 4%.
On a quand même entendu qu'une soixantaine de logements vont être créés à Meyrin. C'est quand même un grand pas.
Oui, voilà. Bon, les Espagnols en construisent quand même 850 000 par an. Et bon, ils sont 35 millions, mais 38, mais voilà, ça donne une échelle.
Alors, quand on parle de ces squats, il y a aussi un changement. Enfin, vous parliez de Jean Rossio tout à l'heure, et lui a cité le cas des squats qui ne sont pas toujours organisés de la même façon, les mêmes communautés, que le squat est une nébuleuse qui change, qui évolue.
Voilà, c'est ça, selon les époques. Donc, ce qui est évident, c'est que c'est un peu la thèse de tous les historiens des squats, effectivement Gros aussi, qui avait écrit cette bouquin à l'époque là-dessus, le sociologue genevois. Il y a toute une scène alternative et une contre-culture importante à Genève qui n'aurait pas existé sans les squats, puisque Genève n'est pas la ville la plus naturellement contre-culture du monde. C'est pas Londres ni New York. Donc, le phénomène squat a quand même servi un petit peu de petite caisse de résonance locale et à faire vivre et exister un milieu. Mais le contexte de la contre-culture il y a 30 ans était évidemment celui d'un affrontement. C'était pas vraiment la lutte des classes traditionnelles, mais il y avait quand même un affrontement idéologique, des générations qui... du poste 68 art, mais c'est plus compliqué que ça et plus riche, bien sûr. D'ailleurs, il a tout à fait raison de parler de la nébuleuse des squats. Et aujourd'hui, la contre-culture, c'est peut-être plus Internet, plus un certain nombre de réseaux, soit virtuels, soit s'ils sont pas tout à fait virtuels, qui sont pas forcément accrochés à des petits groupes de marginaux qui fument des pétards ensemble avec des nattes de rasta, même s'ils existent encore, ceux-là. Et le danger, justement, alors, du phénomène squat à Genève, c'est que, après une génération, ça a 30, 35 ans, même s'il y a eu plusieurs phases, comme on disait, on risque d'institutionnaliser finalement une forme de contre-culture qui va s'auto-stériliser et qui peut, parce qu'elle est presque proche du pouvoir, donc de Patrice Muni quand même, qui a porté tout un tas de festivals et de choses, enfin qui est pas tout à fait issu de ce milieu bien sûr, mais qui en est proche, ça peut institutionnaliser une espèce de république des copains de la contre-culture, donc c'est quand même dangereux.
Ben, c'est quand même ces contestataires d'hier qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Voilà, voilà, tout à fait. Mais donc, ces contestataires d'hier qui sont au pouvoir, est-ce que justement, ils sont quand même portés par une vraie contre-culture? Du coup, la contre-culture ou la culture tout court, c'est plus chez eux que ça se passe, voilà.
Ben, nous en parlerons dans un mois, je crois, voilà. Avec Jean Rossio. C'est une chose, mais l'occupation d'immeubles telle qu'elle était faite par les squatteurs, enfin disons par les squatteurs, était surtout aussi utilisée par les mouvements politiques comme moyen de lutte et comme caisse de résonance.
Bien sûr, la LDTR, c'est la première phase, la loi qui empêche la démolition à Genève. La SLOCA, bien sûr, a surfé là-dessus aussi pour amplifier, parce que ça donne une visibilité politique extraordinaire aux mal logés. Mais là encore... les mauvaises langues aujourd'hui ont persiflé en disant maintenant ce sont les enfants de la bourgeoisie qui vont dans les squats et certains répondront bah tant mieux parce que les enfants de la bourgeoisie vont également dans ces squats. D'abord ils donnent un peu d'argent quand les autres en donnent pas, donc ça légalise les squats de fait avec des espèces de pseudo-loyers même si c'est sur des comptes bloqués. Et puis ça permet aux enfants de la grande bourgeoisie eux-mêmes non seulement d'être un peu immergé dans la contre-culture, mais d'avoir des projets, peut-être même avec les autres. Donc on fait de la mixité, après tout, donc comme ça, dans les squats, entre enfants de la grande bourgeoisie et déracinés. Et d'ailleurs, je pense que les vrais déracinés, les vrais marginaux, sont pas dans les squats, quelque part,
sûr,
c'est
ouais.
Évident. Ceux-là, ils sont flingués et relégués.
Alors, justement, la nouvelle politique envers les squats, est-ce qu'elle n'est pas maintenant, puisqu'on l'appelle tolérance zéro, est-ce qu'elle n'est pas le résultat du lâchage des partis politiques, des partis politiques qui ont lâché un petit peu ce mouvement squat parce qu'il ne sert plus à rien dans leurs revendications?
Il y a un moment où, évidemment, une certaine gauche vertueuse qui avait ses locataires logés par la SLOCA, aidés par la SLOCA, mais dans un parc de logements aidés, pistonnés, etc., puisque la gauche est au pouvoir politique, les squats devant une espèce d'extrême gauche de l'extrême gauche, ça finit par faire des ordres. Donc elle ne va plus soutenir les squats. Ça, c'est bien sûr, c'est évident. Et paradoxalement, donc dans le temps de ce matin, on voit un article, bien sûr. Vous êtes parfait. Donc d'Olivier Jorno, le président du Parti libéral Genevois, qui dit en gros, il faut une loi sur les squats qui permet de les virer du jour au lendemain, parce que c'est le meilleur moyen de les tolérer dans les immeubles vides, parce que les immeubles vides occupés par les squatteurs, c'est mieux qu'un immeuble vide. Donc une espèce de paradoxe assez curieux, mais l'article est assez subtil, hein, quelque part. Et Jorno donc invite les mannes de Bartassa, Bernard Bartassa, le procureur général, effectivement, qui avait un peu ce même type de raisonnement. La tolérance zéro elle-même est plutôt ambiguë à ce niveau-là, en disant, mettons des squatteurs et virons-les tout de suite, mais après tout, encourageons-les quand même. On comprend très bien, c'est une manière aussi de dire au marché immobilier, réveillez-vous.
Alors, je crois qu'on parlera de ce sujet en détail un petit peu un autre jour, mais que pensez-vous de cet amalgame qui est fait avec la sécurité, c'est-à-dire que les partisans genevois de la tolérance zéro, qui sont les partis de l'entente, l'UDC et le MCG, voit dans les squats l'endroit où se nourrit la criminalité, la délinquance.
Oui, alors là encore, au moment du G8, évidemment, il s'agissait de boucler notamment l'usine, etc. Je pense que Rhinocéros a pas violé plus que la moyenne des pervers dans leur pavillon à Colonie. Donc, de toute façon, qu'est-ce que dire criminalité ? Il y a plusieurs problèmes. Alors, on va pas parler aujourd'hui de la drogue, qui est un problème compliqué, jusqu'où on peut l'admettre, la tolérer, pas la tolérer,
etc. Qui n'est pas dans les squats.
Et voilà, et qui n'est pas forcément dans les squats plus qu'ailleurs, de toute manière. Surtout qu'à Genève, la drogue numéro un, c'est la cocaïne, donc c'est plutôt celle des VIP de la publicité, de la com ou de la haute finance, qui ont besoin de se booster le cerveau. Et donc, les problèmes sont beaucoup plus compliqués au niveau de la délinquance que de dire, c'est pas un problème de sécurité, le squat. Il peut y avoir un problème de sécurité, peut-être, s'il y avait vraiment des gens très, très marginaux qu'on n'arriverait plus à gérer. Mais en Suisse, on est déjà suffisamment encarté. Alors, c'est vrai que dans un système de police de l'habitant, quand on raconte aux Français qu'en Suisse, il y a une police de l'habitant qui vous cartographie par cage d'escalier tous les confédérés, tous les gens non genevois, plus les étrangers, les Français tombent évidemment des nus. Alors, il y a des pays libres pas loin d'ici, c'est évident, mais je crois qu'il n'y a pas de danger ici, encore. Alors, ça touche quoi ? Un 10 000e de la population, donc restons raisonnables.
Et qu'on ne peut pas cibler, bien sûr, dans un mode d'habitation précis.
Voilà. Pour moi, le mouvement squat à Genève est évidemment porteur de tout un tas de promesses encore, mais peut-être pas celle de la contre-culture la plus efficace.
Et alors une critique qui revient aussi régulièrement et qui oui. rejoint un petit peu ce que l'on disait au début de cette émission, ce serait une certaine individualisation et de ces occupants qui voudraient maintenant aspirer à un plus grand confort. Et ce qui amène l'individu à rechercher pratiquement des squats individuels, si on peut l'appeler comme ça.
Oui, et puis il y a des squats qui peuvent se transformer en coopératives. Donc on en parlera avec Rossio, la Coduat est née comme ça, son mouvement coopérateur. Donc... arriver à transformer des gens qui veulent légitimement se loger en une coopérative tout à fait juridiquement et économiquement viable et qu'on peut porter comme projet, ça c'est le bonheur, bien sûr. Donc, le problème, c'est plutôt effectivement l'individu. Le squat, est-ce que c'est un mode de vie collective un peu utopique quand même, une espèce de phalanstère, de familistère, si vous voulez, façon 19e, mais des utopies du 19e siècle avec ou kibbutz israélien, on élève les enfants ensemble, il n'y a plus d'argent, et qu'est-ce qu'on échange, etc. Donc c'est une utopie. Aujourd'hui, à nouveau, ce sont les individualités qui gagnent. Et le problème des squats, c'est que... c'est très difficile de rassembler des gens au niveau idéal collectif. Autant quand il y avait un affrontement de contre-culture, de génération un peu homogène dans ces années post-68, ça pouvait être à peu près clair. Aujourd'hui, effectivement, il y a autant de contre-culture que de gens différents.
Alors, c'est un sujet.
Le rhizome est total aujourd'hui.
Oui, Bruno, c'est un sujet que nous allons donc voir prochainement. Puis on y reviendra aussi avec Jean Roussio, donc dans un mois. Alors... vous avez parlé aussi avec la Société d'art public et des rendez-vous avec les architectes.
Voilà, tout à fait.
Bien, merci Bruno. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours.